secrétaire général de notre fédération d'église, fédération baptiste, et aussi ancien directeur de la Ligue pour la lecture de la Bible.
Voilà. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans ce premier dimanche de l'Avent. Voilà, je me souviens du temps aussi où j'étais pasteur dans notre église baptiste à Lyon et j'aimais en particulier aussi voilà, ce temps où on allumait les bougies. Voilà, on avait pris ce temps-là aussi liturgique pour poser les choses et nous rappeler combien le Seigneur Jésus nous aime et de nous le dire pour que nous sachions le dire aussi aux autres, de nous le dire ensemble en communauté pour que nous le vivions et que nous le portions aussi dans nos vies là où il nous envoie. Et c'est aussi de cette manière que nous voulons vivre le dimanche de la mission avec d'autres communautés, non seulement dans notre fédération, mais au-delà. Mais j'aurai l'occasion d'en dire quelques mots ensuite. Il m'a été, pour le temps de prédication, demandé de vous encourager à lire la Bible. Est-ce que j'ai besoin de le faire? Ah, votre silence en dit long. Je ne sais. Est-ce que j'ai besoin de vous encourager à lire la Bible? Non. Bon, on va passer à autre chose alors. J'espère que non. Mais en même temps, nous avons besoin d'être encouragés régulièrement aussi et de nous encourager. J'aime bien le terme encourager, vous savez, il revient souvent dans la Bible et en particulier dans les Épîtres. Encouragez-vous mutuellement. Hein, il est souvent rappelé ça, encouragez-vous mutuellement. Et j'aime bien ce mot, en tout cas en français, encourager, parce que ça vient de cœur. Ça vient de cœur. Le courage, en fait, c'est Rodrigue, vous savez, enfin, dans le Cid, Rodrigue, as-tu du cœur? C'est pas, enfin, voilà, il ne pose pas la question de savoir s'il a une passion particulière, hein, en lui posant cette question, c'est est-ce que tu as du courage, Rodrigue? As-tu du cœur? As-tu du courage pour affronter les difficultés qui vont venir aussi? Donc, encourager, c'est se faire du bien dans le cœur aussi. C'est remettre notre cœur à la bonne place aussi. Donc s'encourager mutuellement. Et nous avons besoin de nous encourager aussi mutuellement dans des habitudes qui sont saines. Hein, dans des habitudes saines. Je suppose que beaucoup d'entre vous ce matin ont pris leur petit déjeuner. Je vois même, mais je ne vais dénoncer personne, qu'il y en a qui continuent encore. Mais... Je suppose que vous avez pris votre petit déjeuner ce matin. Certains qui voilà, du café, enfin voilà, vous avez pris en tout cas de quoi vous sustenter. Hier, sauf si vous aviez décrété un jeûne, vous avez tous pris votre repas aussi. En plus, à des horaires à peu près fixes hein, qu'on s'est donné. Je ne pense pas que vous ayez pris votre petit déjeuner à 4 heures de l'après-midi. Donc on a des temps réguliers où on prend ainsi notre repas. Je suppose que comme vous, vous avez ces temps aussi réguliers. Hein? Et la parole de Dieu nous encourage, et c'est repris par... c'est un texte de l'Ancien Testament, mais repris aussi dans le Nouveau Testament et par Jésus, dans les Évangiles. L'homme ne vivra pas de pain seulement, et vous connaissez bien ce verset, cette parole, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc nous sommes encouragés aussi à nous nourrir intérieurement, nourrir notre cœur et nous encourager à nourrir ainsi des bonnes choses aussi qui viennent de la part de Dieu. Et on sait dans l'histoire, et peut-être dans votre propre histoire, dans votre histoire de famille, combien aussi la lecture de la Bible est bienfaisante et transforme aussi des vies. Dans l'église baptiste de Lyon, que j'ai pu servir pendant 11 années avant d'être directeur de la Ligue pour la lecture de la Bible, il y avait un frère qui s'est converti des Comores qui s'est converti en fait, alors qu'il était militaire, uniquement en lisant en fait le Nouveau Testament. Un Nouveau Testament qui lui avait été remis par un autre de ses collègues à l'époque. Il n'avait aucune connaissance et il s'est converti uniquement à travers la lecture du Nouveau Testament. Personne d'autre, en tout cas, ne... Et ça l'a interpellé pour aller après dans une église. Nous savons aussi dans l'histoire de l'église combien certains grands ont été marqués par la lecture de la Bible et ont écrit après des sommes théologiques. En tout cas, ont pu écrire sur la Bible. On peut penser à saint Augustin, mais en particulier, on se souvient de Luther qui, en lisant l'épître de Paul aux Romains, a compris véritablement pour lui, alors qu'il avait une connaissance, somme toute, assez avancée de la biblique, a compris le sens profond de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu pour sa vie. Et du coup, ça a changé, ça a bouleversé aussi sa vision des choses de Dieu, concernant Dieu, la religion, mais le fait d'être relié à Dieu, qui était autre chose que simplement quelques rites, mais une profonde conversion, un profond changement, une radicalité. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voyager aussi régulièrement dans d'autres endroits que ceux que vous connaissez. Soit en France, il y a des beaux lieux à visiter, à découvrir, ou à l'étranger. Si vous êtes un adepte, une adepte de visite des musées et autres, et parfois pour comprendre, en tout cas lorsque vous visitez un musée, pour bien comprendre en tout cas ce qu'il en est de ce musée, il y a souvent besoin d'un guide. Besoin d'une personne, voire d'un document qui va nous expliquer les choses. Alors on va porter son propre regard par rapport à ce que l'on voit. Si l'on est dans un musée de peinture, par exemple, si vous êtes au musée d'Orsay, je vous conseille d'y aller, hein, si vous ne l'avez pas encore fait, parfois c'est un peu, ça peut être difficile de comprendre certaines peintures. Hein, impressionniste et autres, il faut prendre un peu de recul des fois, mais il faut connaître aussi l'histoire qu'il y a derrière aussi, parce qu'une peinture, derrière il y a tout un contexte, toute une histoire aussi qu'il nous faut apprendre à connaître pour pouvoir comprendre, c'est-à-dire prendre avec nous. Et puis, lorsque nous nous aventurons aussi dans une randonnée, que sais-je, j'en ai fait quelques-unes aussi, et dans l'ensemble des camps et des colonies que j'ai pu diriger aussi, l'importance d'avoir une carte, ou si vous êtes sur la route maintenant, d'avoir le GPS, hein, puisque maintenant les cartes routières, elles ont fini par disparaître. Mon épouse, de temps en temps, la sort quand même de la boîte à gants alors qu'on a un bon GPS, hein, voilà, mais pour avoir une vision un peu plus large, hein, vous savez, parce que le GPS nous donne une vision quand même rétrécie de notre route, de notre parcours. Il ne nous donne pas une vision large. Nous avons besoin parfois d'avoir une vision un peu plus large et nous avons besoin d'avoir un guide, quelqu'un qui nous explique ou un document qui nous permet de comprendre. Alors qu'est-ce que j'attends d'un guide ? C'est tout d'abord, en tout cas pour moi, hein, qu'il soit éclairé, avisé pour donner des explications suffisantes, mais qu'il soit aussi passionné pour être passionnant et m'encourager aussi à poursuivre le chemin, la route, qu'il soit aussi disponible pour répondre à mes questionnements et qu'il soit aussi quelque part effacé pour laisser la place au sujet de la visite et non pas prendre lui toute la place. C'est le cas de Philippe dans le texte que je vous propose à la lecture maintenant. au chapitre 8 du livre des Actes des Apôtres et nous prendrons la lecture à partir du verset 26. Donc j'entends que plusieurs d'entre vous ont encore des Bibles avec des pages qui se tournent. Je ne sais pas si vous êtes les derniers. En tout cas, moi, j'étais un des premiers à avoir ma Bible sur écran. Mais et donc, vous pouvez suivre la lecture avec moi. Je la ferai dans la version de la Nouvelle Bible Second, à partir du verset 26 au chapitre 8 des Actes des Apôtres. Suivez soit dans votre Bible papier, soit sur votre smartphone ou autre. L'ange du Seigneur dit à Philippe: va vers le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, dans le désert. Philippe se leva et partit. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine des Éthiopiens, et responsable de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait, assis sur son char, en lisant à haute voix le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et rejoins ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si personne ne me guide? Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme un mouton à l'abattoir, et comme un agneau muet devant celui qui le tend, il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, son droit a été enlevé, et sa génération, qui la racontera? Car sa vie est enlevée de la terre. L'eunuque demanda à Philippe: je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prit la parole et commençant par cette écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme tous deux continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit: voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche de recevoir le baptême? Il ordonna d'arrêter le char et tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. L'eunuque ne le vit plus. Il poursuivait son chemin, tout joyeux. Nous arrêtons ici la lecture et je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, c'est avec un cœur rempli de reconnaissance pour ton amour et ta grâce que nous nous présentons devant toi. Mais avec aussi nos cœurs, nos esprits, nos intelligences ouvertes à ce que tu veux nous dire, Seigneur. Ouverts à ce que tu veux, Seigneur, aussi déverser. Par la lecture et la méditation de ta parole. Nous affirmons, Seigneur, que ta parole est la vérité. Par ton esprit, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Deux hommes, un chemin réputé peu fréquenté, et pourtant, une rencontre. Une rencontre qui commence avec une lecture. Une lecture qui va amener une question, voire un questionnement même. Et ce questionnement qui suscite un intérêt de part et d'autre. Voilà les éléments fondateurs, en tout cas, de notre récit. Le Philippe de notre texte est connu comme un des diacres de la première église chrétienne, choisi pour sa sagesse et son honnêteté. Il était destiné à s'occuper des plus faibles de la communauté des croyants de Jérusalem. Contraint de quitter Jérusalem à cause de la persécution contre les Juifs convertis au christianisme, Philippe part annoncer la bonne nouvelle de Jésus ailleurs, dans les contrées voisines. Et c'est là qu'il reçoit l'ordre de s'aventurer. Il s'agit bien de s'aventurer sur une route sans grand intérêt. Et le texte précise même, si besoin était, cette route de Jérusalem à Gaza, qu'elle est déserte. C'est-à-dire qu'il est envoyé dans un endroit où il n'est censé rencontrer personne. Son obéissance, que certains qualifieront peut-être de servile, en tout cas, va pourtant être récompensée. Et sur ce chemin, il y a quelqu'un. Sur ce chemin réputé désert, il y a quelqu'un. Il y a même une cohorte, puisque, en tout cas, on peut estimer que l'eunuque ne devait pas être seul aussi, il était entouré aussi de plusieurs personnes qui l'accompagnaient. Et de cet eunuque, en tout cas, nous ne savons que peu de choses. Oui, nous savons sa nationalité étrangère, sa fonction importante, l'objet même de sa venue, un objet pieux en fait, une venue pieuse pour adorer à Jérusalem. Ministre des finances de la reine d'Éthiopie, cet homme assure de grandes responsabilités. C'est un homme cultivé et intelligent. Un homme religieux aussi, semble-t-il un converti au judaïsme, et qui connaît aussi les textes, qui les lit. Cependant, cet eunuque éthiopien ne comprend pas ce qu'il lit dans les Écritures, et plus précisément, en tout cas, dans le livre du prophète Ésaïe. Comprends-tu ce que tu lis ? Cette question pourrait nous être aussi posée. Et j'aime bien me la poser aussi régulièrement lorsque je suis face au texte biblique. Comprends-tu ce que tu lis ? C'est-à-dire, j'aime le terme comprendre aussi, c'est prendre avec soi. Il ne suffit pas non plus de le comprendre de manière simplement intellectuelle. Mais comment tu prends ce texte avec toi aussi ? Comprends-tu ce que tu lis ? Ce que tu es en train de lire, est-ce qu'il change ? Est-ce qu'il transforme aussi ta vie ? Pour donner un sens à ton quotidien, t'aider dans des choix aussi que tu as à faire auprès de ta famille, auprès de tes proches. Comprends-tu ce que tu lis ? Est-ce que ça va changer aussi la direction de ta vie ? Pas simplement la direction de ton char, mais la direction de ta vie, comme ce fut le cas aussi ici, dans notre texte, pour l'eunuque éthiopien. À cette question de Philippe, qui a fait l'effort de rejoindre l'eunuque en courant jusqu'à son char. Et nous voyons là aussi toute l'importance de la pédagogie, c'est-à-dire le fait d'aller à la rencontre des autres et pas d'attendre qu'ils viennent à nous, mais d'aller à la rencontre des autres. Ici, Philippe a fait preuve de pédagogie, quelque part. Et à cette question, comprends-tu ce que tu lis ? L'Éthiopien avoue son ignorance en même temps que son besoin de comprendre, d'aller plus loin, d'approfondir. Il a besoin d'éclairage, de conseils, de lumière sur sa lecture. Il ne veut pas de quelqu'un qui lit à sa place, qui comprend à sa place, mais quelqu'un qui l'accompagne dans sa lecture. Il demande à être accompagné. Et le terme ici employé dans notre texte par guide trouve son origine aussi dans le mot chemin, route. C'est la mise en route, accompagner sur le chemin, cheminer. Et la réponse de l'eunuque pourrait alors être aussi transcrite de la façon suivante. Comment le pourrais-je si personne ne m'accompagne en route, ne chemine avec moi, voire même ne me met sur la route, ne me met en route? Et j'aime ce caractère dynamique aussi d'un accompagnement dans la lecture biblique, qui à la fois respecte la personne et aussi lui apporte les éclairages nécessaires pour bien comprendre et l'encourage à aller plus loin. Il est vrai que le texte biblique, en tout cas lu par l'Éthiopien, n'est pas un des plus faciles à comprendre. Il suscite encore beaucoup de questionnements. Voilà, pas facile à comprendre. Et si vous allez même dans l'hébreu, c'est encore plus compliqué que ça, hein. Alors comment savoir de qui il s'agit réellement ici? Et Philippe va pourtant utiliser ce passage peu explicite pour amener son interlocuteur à une compréhension plus large, plus vaste, à ouvrir en fait son horizon. Il est sur son char, dans le désert, avec comme objectif de rentrer chez lui, et là il y a quelqu'un qui ouvre son horizon, qui ouvre son horizon. Et nous avons besoin dans notre lecture biblique d'ouvrir notre horizon. Parfois nous sommes focalisés sur un verset, sur un texte, nous avons besoin de voir plus large. Et nous avons besoin d'autres personnes, de guides aussi, pour nous aider à voir plus largement le texte que nous lisons. Et mieux que comprendre un texte aussi beau soit-il, il veut, Philippe, lui faire connaître et reconnaître la personne qui est derrière, celle de Jésus-Christ dont les Écritures parlent si bien. Je suis admiratif de la démarche de Philippe. Il ne force rien, il se laisse inviter, il est là, présent, disponible, n'imposant rien. En tout cas, le texte que nous avons lu nous montre qu'il ne prend la parole que lorsque l'eunuque l'y invite. Philippe, ici, n'assène pas des vérités toutes faites. Il a juste pris soin de susciter par une question la curiosité et l'intérêt chez celui qu'il vient de rencontrer. C'est une belle leçon d'humilité, de patience, de respect que nous donne Philippe aussi dans ce récit. Il veut n'être qu'un instrument, un guide, au service d'une parole qui conduit à Jésus-Christ. Et s'appuyant sur le texte du prophète Ésaïe, Philippe amène l'eunuque à comprendre l'enjeu de l'évangile pour sa vie. Et non seulement de manière intellectuelle, mais à le prendre avec lui. Ce qui va susciter alors une demande particulière de la part de l'eunuque. À être baptisé, c'est-à-dire à engager sa vie alors, à suivre Jésus-Christ. Pas simplement à connaître qui est Jésus et à savoir que derrière, c'est de Jésus dont il est question ici dans ce texte, mais que ça bouleverse son être intérieur à tel point qu'il veut manifester son engagement à travers le baptême. Une des copies de la Constitution des États-Unis d'Amérique à la particularité suivante, lorsque vous prenez du recul, alors je ne l'ai pas vu, hein, j'espère un jour peut-être voir cette copie-là, mais il existe cette copie que lorsque vous prenez du recul, l'ensemble des mots, des articles, des chapitres, hein, qui ont été tous bien réfléchis avant d'avoir été rédigés, tout cet ensemble-là se confond pour former la figure du principal artisan et signataire de cette Constitution, le président George Washington. Quelque part, ainsi en est-il aussi de la Bible qui, à partir peut-être d'un passage, peut nous entraîner à mieux discerner et connaître Dieu, son auteur, révélé en la personne de Jésus-Christ. Et dans cette période de l'Avent, quelque part, c'est aussi ce que nous révélons. Et à travers les textes qui sont pris, lus, médités hein, lors de chacun de ces dimanches, ça nous ramène toujours plus proche de Jésus-Christ, Dieu qui s'est révélé parmi nous, l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est l'expérience qu'a pu vivre l'eunuque éthiopien grâce à la disponibilité bienveillante et respectueuse de Philippe. D'une lecture incompréhensible, l'eunuque éthiopien, grâce à l'intervention tout en finesse de Philippe, est passé à une lecture éclairée. Mais cette nouvelle façon de lire les Écritures ne pouvait pas le laisser indifférent. Il lui fallait répondre par un engagement fort, et ici le baptême. L'objectif principal de la Bible n'est pas tant d'avoir une connaissance culturelle, intellectuelle, théologique sur l'histoire des hommes. C'est bien. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est qu'à travers la parole qui sort de la part de Dieu, de sa bouche, à travers des hommes et des femmes qui, à travers les siècles, ont reçu de sa part quelque chose qu'ils ont mis par écrit pour nous, pour les générations à venir, c'est que nos vies soient transformées. C'est de connaître Dieu dans la plénitude de son amour pour chacun de nous en particulier. Et c'est ce que j'encourage aussi à travers les guides, qu'ils ne soient pas simplement des textes qui nous aident à comprendre le contexte, qui nous aident à comprendre l'histoire, mais qu'à travers cela, il nous aide à mieux reconnaître l'amour et la grâce de Dieu pour nos vies. Cette manière de comprendre le texte biblique a transfiguré l'Éthiopien. Certes, il retourne toujours chez lui, mais la joie, et le texte biblique est précis ici, la joie se lit maintenant sur son visage. Il retourne chez lui tout joyeux, nous dit le texte. Et l'évangéliste Luc a bien pris soin de le préciser dans son récit. Quant à Philippe, il n'est plus besoin pour lui d'accompagner celui qu'il devait rencontrer sur un chemin pourtant désert. Il est appelé maintenant à d'autres rencontres dans d'autres lieux. L'eunuque peut poursuivre seul son cheminement, éclairé désormais par l'Esprit du Seigneur. Cet esprit même qui guide Philippe vers d'autres horizons. Faut-il retenir de la tradition que l'eunuque éthiopien de retour chez lui a été le maillon principal de l'évangélisation de son peuple ? Quoi qu'il en soit, sa vie a été transformée par cette rencontre. Maintenant, il ne lira plus les Écritures avec le même regard, car sa vie, en croisant celle de Philippe, a surtout croisé celle du Christ. Et cette vie transformée n'a pas dû passer inaperçue alors chez ses proches, et dans son entourage de travail. Le témoignage de sa rencontre inattendue, combiné avec celui de son comportement changé, transformé, a sûrement interpellé son entourage. Alors sommes-nous comme cet eunuque ou comme Philippe ? Nous sommes, semble-t-il, les deux à la fois. À la fois avoir besoin de guides aussi, qui nous amènent toujours à transformer notre vie, à être encouragé aussi, c'est-à-dire que notre cœur soit bouleversé aussi quelque part pour comprendre l'amour et la grâce de Dieu. Et de nombreux guides existent, personnels, avec des personnes qui cheminent avec nous. Le fait de vivre un temps de culte aussi autour de la parole de Dieu, c'est une manière aussi d'être ainsi guidé. Ce qui n'empêche pas notre propre réflexion et, comme les Juifs de Bérée, souvent cités, de pouvoir reprendre les textes pour pouvoir les méditer aussi à sa sauce et avec son regard et en vérifiant que les choses étaient bien justes. Ça n'enlève pas notre intelligence et notre réflexion, au contraire. Mais nous avons besoin aussi de ces guides qui nous permettent d'avoir un regard un peu plus large sur les textes bibliques, de ces guides qui existent aussi et où tous les jours vous pouvez les suivre et qui vous amènent, qui vous donnent la bonne habitude de lire le texte biblique. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Je suis tombé chez les baptistes quand j'étais petit, mais mes parents ne l'étaient pas. Mais j'ai pu voir mes parents tous les matins. Et ça a marqué aussi mon engagement, mon ministère. Chaque matin, je pouvais les voir. Alors mon père était mineur, Hein, donc parfois c'était tôt, mais les voir lire la Bible. Et après, quand mon père a eu sa retraite assez tôt, puisque les mineurs avaient leur retraite à 60 ans, mon père l'a eu à 59, je les voyais tous les matins lire ensemble la Bible, avec le verset aussi qui l'accompagnait, et le feuillet qui l'accompagnait, et de lire à haute voix, sans jamais m'imposer de devoir rester avec eux et de prier ensemble. Et des fois, je descendais pour prendre le petit-déj et je les trouvais dans cette attitude-là. Je ne les dérangeais pas et j'allais... Mais ça marquait aussi tous les jours de les voir ainsi. Et ils avaient besoin des feuillets pour lire ensemble aussi. Et nous avons besoin de ces guides aussi pour nous encourager à lire la Bible régulièrement. Et depuis de nombreuses années aussi, des décennies maintenant, j'essaye de lire la Bible dans l'année. La Bible en un an, j'essaye de suivre. Alors au début, j'avais fait mon propre plan. Et puis après, j'ai découvert qu'il y en a qui avaient déjà travaillé dessus, qui étaient quand même un peu plus équilibrés que ce que je faisais, mais... Ben ça me permet de voir chaque année, j'essaye de lire ça aussi dans une version différente. Et du coup, des textes bibliques, je me dis, mais tiens, ça, j'avais pas vu. Ça m'ouvre l'horizon. Et parfois, d'autres guides de lecture me permettent de voir différemment aussi un texte que j'ai battu et rebattu. Nous sommes à la fois l'eunuque et comme Philippe aussi. Et comme Philippe, nous sommes amenés aussi peut-être à encourager d'autres dans leur lecture de la Bible, dans leur compréhension de la Bible, c'est-à-dire comment ils prennent le texte pour eux-mêmes et comment ça les change. Nos contemporains ont besoin de comprendre aussi le sens profond du message de la Bible. Alors nous qui nous réclamons de l'Esprit du Seigneur, serons-nous à la croisée de leur chemin disponible pour entendre leur lecture, attentifs à leurs questionnements, sensibles à leurs besoins d'accompagnement ? Mais pour cela, il nous faut, nous aussi, être transformés par ce texte qui transforme. Nous aussi, être à l'écoute de ce texte qui bouleverse la vie des uns et des autres, notre vie aussi. Il ne s'agit pas tant ici de compétences bibliques ou théologiques, même si c'est utile, et que j'encourage à ce que les uns et les autres puissent avancer dans ces domaines. Mais de connaissance aussi personnelle de Jésus-Christ. Comme l'eunuque, nous avons aussi besoin de cheminer un temps avec d'autres qui nous font découvrir les richesses et parfois les mystères du texte biblique, pour qu'à notre tour, nous devenions des Philippes pour encourager, guider aussi d'autres personnes jusqu'à Jésus-Christ. La communauté est le lieu privilégié où nous apprenons les uns des autres. Mais nous avons la responsabilité aussi, rentrer chez nous, de lire le texte pour nous-mêmes, de nous nourrir aussi de ce texte, pour pouvoir être et continuer d'être des témoins fidèles de Jésus-Christ. Serons-nous assez humbles et assoiffés aussi d'une parole de vie pour écouter nos contemporains lorsqu'ils nous parlent de la bonne nouvelle de Jésus-Christ ? Tant ils ne comprennent pas tous les enjeux. De toute manière, quand le texte biblique nous interpelle, c'est toujours avec joie. Que nous soyons eunuques ou Philippe, c'est toujours avec joie que nous poursuivons le chemin de notre vie. Et pour terminer, je nous invite... apprendre comme il a encouragé, c'est-à-dire a mis ça dans mon cœur tout à l'heure, votre pasteur, José, un texte que vous allez retrouver aussi dans la vitrine de l'entrée et qui est un encouragement, 8 encouragements aussi à la lecture de la Bible. Alors j'ai retrouvé ces 8 encouragements adaptés à aujourd'hui. via Internet sur le site de l'Alliance biblique. Donc, ce sera à peu près ça, mais avec peut-être quelques nuances. Mais le premier, c'est de la Bible, ton pain quotidien, tu feras. Tu as du mal à trouver du temps pour lire. Au lieu de regarder une série, pourquoi ne pas essayer de lire ou écouter la Bible ? La Bible, toujours avec bienveillance, tu utiliseras. Soyez toujours indulgent et compréhensif envers autrui. Nous pensons tous détenir la vérité. Aux nouvelles générations, tu transmettras la Bible. C'est un encouragement qui était déjà donné dans Deutéronome au peuple d'Israël de se transmettre, comme j'ai donné l'exemple de mes parents aussi, qui ont su transmettre aussi à travers leur exemple. En famille, tu exploreras la Bible. La meilleure façon de transmettre aux enfants, c'est de vivre la foi au cœur de la famille. Et vous pouvez être aidé avec de nombreux guides aussi, spécialisés pour telle et telle tranche d'âge. N'hésitez pas, sans être encore directeur de la Ligue pour la lecture de la Bible, je vous encourage à utiliser le matériel qui est édité par la Ligue pour la lecture de la Bible dans ce domaine. Cinquième encouragement, la Bible en pratique, tu mettras. La Bible, ce ne sont pas que de belles paroles. Elle invite aussi à une vie tournée vers l'autre, je dirais avec un grand A, qui nous tourne vers les autres. Sixième encouragement, avec sérieux, tu étudieras la Bible. Il existe beaucoup d'outils pour étudier la Bible. Bible papier, dictionnaire, parcours biblique, commentaires. Un verset toujours plus riche quand il est lu et compris dans son contexte littéraire et historique. La Bible est parfois plus difficile à comprendre que les blagues carambars. Quoique, il y a des blagues carambars, j'ai un peu de mal quand même à vraiment les comprendre. En tout cas, les prendre avec moi, ça c'est clair. Et pourtant, la Bible peut dévoiler ses richesses au plus grand nombre. Septième encouragement, parler de la Bible, tu oseras. La laïcité est un principe de la République française. Pour autant, nous, chrétiens, pouvons oser parler de notre foi sans rougir et sans jamais à rien imposer. Et dernier encouragement, grâce à elle, tu encourageras. Transmettre l'espérance fait partie des missions du chrétien. La Bible reste l'outil idéal aussi pour cet encouragement. Que le Seigneur nous encourage à être des eunuques pour prendre avec nous le texte biblique qui nous transforme, mais aussi des Philippes pour accompagner celles et ceux qui ont besoin de trouver le chemin vers le Christ.